toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM, il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers Maine-et-Loire Europe Direct va vous faire rencontrer Alessia Della Rocca, doctorante italienne à Angers. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots?
Oui, bien sûr. Je m'appelle Alessia Della Rocca. Je viens d'Italie, de Milan, où je travaille à l'Université de Milan, mais même si je suis originaire de Modène, donc en Émilie-Romagne.
Alors, vous êtes doctorante en co-tutelle au laboratoire 3LAM, langue, littérature, linguistique des universités d'Angers et du Mans. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ça consiste?
Oui, bien sûr. Être doctorant en co-tutelle signifie que sa thèse, son projet de thèse est encadré par deux directeurs, deux professeurs des deux universités différentes et des deux pays différents. Donc, dans mon cas, il s'agit d'Italie et France. J'ai une directrice italienne, madame Monica Barsi, j'ai une directrice française à Angers, madame Anne-Rachel Hermeté. Et voilà, donc, ma thèse est dirigée par deux professeurs différents. Et à la fin de mon doctorat, j'aurai un double titre. Donc, un titre de doctorat italien et un titre de doctorat français.
Est-ce que vous pourriez nous présenter dans les grandes lignes votre sujet de recherche?
Oui, bien sûr. Donc, en quelques mots, mon projet de thèse porte sur la presse clandestine de la résistance française. Et il s'agit d'un projet de nature linguistique. Donc, je m'occupe d'observer dans le cadre de cette presse toutes les stratégies linguistiques, argumentatives et rhétoriques qui sont mises en place pour les objectifs de la presse clandestine, qui a normalement été étudiée d'un point de vue plutôt historique ou sociologique. Et les points de vue linguistiques n'est pas très développé en fait. Et donc, c'est pour ça que je m'occupe de repérer toutes ces stratégies et dans les objectifs de la presse clandestine, ses rapports avec la propagande allemande, bien sûr, la presse autorisée par Vichy, ses rapports avec la population, et donc la langue est vraiment la partie centrale de ces rapports, et donc voilà mon sujet de recherche.
Alors, comment en êtes-vous arrivé à travailler sur ce sujet?
Alors, il s'agit d'un parcours qui remonte à mes années de licence, en fait. J'étais en L2 et j'avais une professeure de littérature française, elle s'appelle Madame Mariolina Bertini, qui nous avait donné un cours tout à fait intéressant sur la littérature du Paris occupé. Donc, on avait étudié les œuvres de Patrick Modiano, de Georges Perec, et c'est là vraiment m'a fait connaître pour la première fois le monde de la résistance, le monde de l'occupation. Et donc, après, avec les années, étant donné que ma spécialité est plutôt linguistique, j'ai dit, est-ce que on peut concilier un peu ces deux choses? Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à la presse. Mais c'est quelque chose que depuis ma deuxième année de licence, j'ai toujours gardé, j'ai toujours approfondi et jusqu'à arriver à mon doctorat.
Alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours avant d'arriver à Angers?
Oui, j'ai un parcours d'études en Italie, même si il est vrai que les allers-retours entre l'Italie et la France ont été fréquents. J'ai fait ma licence en Italie, mais en troisième année de licence, je suis partie en Erasmus pour un an, et justement, je suis partie à Angers. Donc j'ai passé ma troisième année de licence à Angers. Et après, je fais mon Master 1 et mon Master 2 en Italie, mais j'ai fait, entre le Master 1 et le Master 2, un stage de 9 mois en région parisienne. Donc voilà, une autre aller-retour en France, entre France et Italie. Et voilà, après encore, à nouveau, avec mon doctorat entre Italie et France.
Alors, pourquoi avez-vous voulu travailler à Angers?
J'ai voulu travailler à Angers parce que la professeure Anne-Rachel Hermeté, justement, enseigne à Angers et toute son expertise dans l'étude de la presse, dans l'étude des revues, était vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, avec ma directrice italienne, on a demandé à Madame Hermeté si elle souhaitait prendre en charge cette co-tutelle. Elle a accepté. Donc, on a été très, très contente de pouvoir commencer ce parcours entre Italie et France avec Angers.
Quand vous êtes arrivé en France, vous avez pu bénéficier de l'accompagnement d'Euraccess. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce service?
Oui, j'ai été en fait très contente de pouvoir bénéficier de ce service grâce à Madame Charlotte Breton à l'Université d'Angers, parce que j'ai eu vraiment la possibilité d'avoir des renseignements bien avant de partir. Donc j'ai dû moi aussi remplir des formulaires pour préciser ma situation. Et après, quand je suis arrivée, j'ai vraiment eu un accompagnement. Je me suis sentie tout à fait épaulée par ce service, parce que j'ai eu vraiment cet entretien avec Madame Breton qui m'a vraiment expliqué toutes les démarches à accomplir et même toutes les informations utiles qu'on ne connaît pas forcément. Donc, par exemple, les systèmes d'assurance, le système de santé, de maladie, et les dentistes. Donc, c'est des informations très pratiques que c'est, ça fait du bien de connaître en amont. Et donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce service et je me suis sentie tout à fait épaulée par Euraccess.
Donc juste pour préciser, Euraccess, c'est un réseau donc de services qui aident les chercheurs gratuitement, donc qui arrivent dans les universités européennes avec des services d'aide, notamment sur le volet administratif. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la recherche dans un autre pays ?
Déjà, le fait que mon sujet de recherche est tout à fait français, est vraiment très français, donc c'était un peu logique de partir en France. Après, il est vrai aussi qu'en raison de toutes mes allers-retours entre l'Italie et la France, ça me déplaisait vraiment pas du tout de continuer ce parcours entre Italie et France. Et après, voilà, l'enrichissement à niveau académique, mais même personnel, qui donne la possibilité de faire de la recherche entre deux pays européens en ce cas-là, et donc de connaître des dynamiques différentes, de grandir vraiment dans tous les sens. Et donc c'est pour ça.
Pour revenir à votre sujet de thèse, quelle est la découverte la plus intéressante ou étonnante que vous avez fait au cours de vos recherches ?
Ça peut paraître peut-être un peu banal, mais je dirais vraiment la richesse de la presse clandestine, du langage de la presse clandestine et de la résistance française. Parce que oui, on le lit, on voit les sujets dont il parle, on voit les thèmes qu'il traite, mais vraiment l'analyse approfondie de cette presse m'a fait découvrir une quantité de stratégies linguistiques, argumentatives et rhétoriques qui visent tout à fait un objectif précis. Et donc, ça a été pour moi une véritable découverte que j'ai beaucoup appréciée.
Et quelle serait, selon vous, l'idée reçue la plus répandue concernant votre sujet de recherche ?
Alors, on entend fréquemment que, par exemple, la presse clandestine n'a pas été tout à fait utile, ou n'a pas été tant utile que ça. Donc, il est vrai, donc je veux pas dire que c'est pas vrai, il est vrai que, par exemple, par rapport à l'autre média de la résistance, ou l'autre média clandestin qui était la radio clandestine, la presse était quelque chose d'un peu minoritaire. La radio était beaucoup plus utilisée, beaucoup plus écoutée, c'était plus facile dans une situation de clandestinité d'écouter la radio que de lire un journal clandestin. Mais si l'on fait un peu de recherche, on observe vraiment que dans sa situation, dans ses capacités, la presse a été assez utile, a été en fait très utile avec son travail d'unification, de rassemblement. Et donc, je dirais ceci.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de thèses ou de travaux de recherche en cours d'élaboration au laboratoire 3LAM ?
Oui, bien sûr. Il s'agit tout d'abord d'un laboratoire pluridisciplinaire. Donc, les études qui sont menées concernent le domaine hispanophone, anglophone, germanophone et de littérature française. Et comparer. Cela porte aussi sur les écritures de l'histoire, les écritures de la mémoire, et donc cela implique aussi mon projet. Il y a des études qui portent sur la circulation des idées et des œuvres entre les pays de l'Europe, des études des traductions, et il est très important aussi parce qu'il y a des projets régionaux qui sont en cours, donc des projets PICT et des projets Pulsar qui sont portés par la Maison de la région, Pays de la Loire. Donc c'est vraiment quelque chose de très pluridisciplinaire et que je trouve tout à fait enrichissant et très intéressant.
Donc avec cette expérience dans une université française, est-ce que vous vous sentez plus européenne qu'avant ?
Oui, tout à fait. Il faut dire aussi qu'avec mon expérience entre Italie et France, je me sentais déjà européenne, mais toutes ces expériences que j'ajoute continuent de me faire sentir encore plus européenne, tout à fait.
Ça fait maintenant quelques mois que vous êtes à Angers. Est-ce qu'il y a des coutumes ou des habitudes françaises qui continuent à vous étonner ?
Alors, il faut dire que je me sens tout à fait intégrée en France. Je considère vraiment que je suis chez moi, dans mon second chez moi. Mais il est vrai qu'après des années et j'ai encore quelque chose, des habitudes, des coutumes qui m'étonnent positivement, il faut dire. Et par exemple, avec les tout derniers événements, une chose qui me revient à l'esprit est vraiment la capacité de manifester, de protester. Alors, cela m'étonne parce que il s'agit de quelque chose qu'en Italie, on n'a vraiment pas. Pas au niveau que vous avez la capacité de faire entendre votre voix, de continuer à faire valoir votre voix. C'est quelque chose que j'admire et qu'en Italie, on ne voit pas forcément comme en France. Donc, cela continue vraiment de me surprendre très positivement.
Et quelles sont les choses qui vous manquent le plus de votre pays natal ?
Alors, bien sûr, je dirais la famille et les amis, c'est normal, je ressens un peu le manque, bien que avec la technologie aujourd'hui, il faut dire que les distances sont réduites. Cependant, quelque chose dont la distance n'est vraiment pas trop réduite par la technologie est la cuisine traditionnelle qui me manque un peu, bien que il est vrai qu'à Angers, on peut manger des très très bons pizzas, et donc il faut le dire, mais il est vrai que la cuisine traditionnelle de ma région, de ma ville, parfois me manque un peu.
Et justement, qu'est-ce que vous aimez le plus à Angers et en France ?
J'adore tout d'abord l'architecture. Toutes les villes que j'ai pu visiter en France, je connais pas toute la France, mais toutes les villes qui sont nombreuses en fait, que j'ai pu observer, que j'ai pu visiter en France, j'adore l'architecture, j'adore la cuisine française de toutes les zones où j'ai pu aller. C'est des choses que vraiment j'adore et qui me font sentir chez moi vraiment.
Alors, pour faire découvrir votre langue à nos auditeurs, quel est votre mot préféré dans votre langue natale, avec la traduction si c'est possible, et quel est votre mot préféré en français ?
Alors, pour le mot italien, il y en a plusieurs en fait, mais je dirais que celui que je préfère est le mot alba, qui est le mot aube en français. J'imagine pour sa musicalité, pour sa signification aussi, le commencement d'un nouveau jour, il s'agit d'un mot que j'apprécie beaucoup. Et en français, assez compliqué, parce que tout d'abord, il faut dire que j'adore la langue française, donc c'est compliqué de choisir un mot. Mais peut-être, je dirais, le verbe flâner. J'aime bien, dans ce cas aussi, la musicalité de ce verbe, et j'aime bien le concept aussi, parce que j'aime bien le faire quand je peux partir, quand j'ai le temps de partir visiter quelques villes ou quelques villages. J'aime bien flâner, donc il s'agit d'un mot que j'aime bien.
Alors, pour les auditeurs qui souhaiteraient faire de la recherche donc dans leur pays ou dans un autre pays, est-ce que vous auriez des conseils à donner ?
Oui, donc s'ils connaissent déjà leur sujet ou s'ils ont déjà un sujet qu'ils aimeraient bien approfondir dans le cadre de leur recherche, je me sens vraiment de conseiller la co-tutelle parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est tout à fait enrichissant et on n'est pas forcé de le faire si l'on a des thèses sur linguistique ou sur la littérature étrangère, on peut vraiment le faire dans tous les domaines. Donc c'est quelque chose que je recommande, je conseille à tout le monde qui souhaite faire de la recherche, c'est une double occasion de faire de la recherche dans son pays et dans un autre pays, de rencontrer énormément de personnes tout à fait intéressantes, d'avoir d'expériences incroyables d'un point de vue scientifique et personnel.
Et quels sont vos projets après votre doctorat ? Est-ce que vous avez envie de travailler à nouveau dans un autre pays européen ? Vous souhaitez rester en France ou vous souhaitez revenir dans votre pays ?
Donc, je souhaiterais bien tout d'abord continuer dans le domaine de la recherche, donc idéalement avec un postdoctorat, une bourse de postdoc, et encore plus idéalement, j'aimerais bien rester entre l'Italie et la France, donc continuer avec ce parcours double, si je peux dire, entre l'Italie et la France. Donc, ce serait vraiment mon désir principal de pouvoir continuer de la recherche entre mon pays, entre l'Italie et entre la France, que je considère aussi comme un chez moi.
Et pour finir, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditeurs en français ou dans votre langue natale souhaitée ?
Un message peut-être que je ferai passer est quelque chose que je dis à moi-même aussi et qui vient, je pense, j'imagine, vient de mes recherches. Et il serait de toujours soigner sa communication, de toujours soigner son langage. Parce que il est vrai que le contenu de ce qu'on dit est très important, mais il est vrai parfois que la façon dans laquelle on dit, les choses qu'on dit est tout à fait importante aussi, et parfois elle est encore plus importante que le message même. Donc ça peut faire la différence, la forme, la façon dans laquelle on dit quelque chose. Et donc c'est quelque chose que je me répète à moi-même souvent, et voilà, j'ai envie de partager ce petit message.
Bien, merci beaucoup Alessia d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une très bonne continuation dans vos recherches à Angers et en Italie. L'Europe dans le micro, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission est disponible en podcast sur le site de Radio G. Radio G.